Bonjour, soyez les bienvenus. Bernard Tapie dans le Panthéon des Marseillais, procession sur le Vieux-Port et messe à la cathédrale de la Major ce matin. Parmi ceux qui lui ont rendu hommage, l'ami Jean-Louis Borloo.
Tu es à la maison maintenant, sous la bienveillance de Notre-Dame de la Garde et de Sainte-Marie, Majeure de Marseille, sous la protection de Saint-Louis, Saint-Lazare et Saint-Victor, et surtout de l'amour des Marseillais à jamais.
Reportage dans un instant. 8 mois après le Brexit, une nouvelle crise majeure s'ouvre-t-elle en Europe? Très vive réaction dans les milieux européens après la décision de la Cour constitutionnelle en Pologne. Elle rejette la suprématie du droit européen sur le droit national. Une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs dans la tourmente, Centrale Supélec, enquête préliminaire ouverte. Une centaine de faits de harcèlement, agressions sexuelles et viols sont révélés dans une étude interne. Dans l'actualité encore, le Nobel de la paix pour 2 journalistes, une Philippines, un russe. Les écologistes veulent présenter un front uni en campagne à Lyon. Et puis parole de notre cher belge Alex Vizorek après la défaite de son équipe face aux Bleus en football hier soir. Notre invitée à 13h30 est écrivaine et insomniaque. Marie Darieusec publie Pas dormir, où elle raconte ses nuits sans sommeil, d'où elles viennent, ce qu'elle y fait. Dialogue avec Marie Darieusec. Racontez-nous vos insomnies, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Le vif de l'histoire, à l'heure où l'église affronte la tempête et l'accusation de vivre sous domination masculine, portrait d'une mystique, une mystique, qui était bien malmenée au XVIIe siècle. Dans C'est une chanson, Grand corps malade, c'est le choix de l'autrice de polar Sonia Delzongle à l'heure du festival du polar. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
Du noir pour le deuil, du bleu et blanc, les couleurs de l'Olympique de Marseille. Les adieux à Bernard Tapie ont commencé par une procession ce matin sur le Vieux-Port. La foule derrière le corbillard, puis la messe à la cathédrale de la Major. Et là, la famille, les amis et les personnalités de Marseille ont pris la parole pour rendre hommage à Tapie. Récit de cette matinée particulière à Marseille. Avec vous, Cyril Ardeau, elle a donc commencé avec la ferveur des supporters.
Des applaudissements, des chants et un code couleur. Les supporters de l'OM sont venus habillés de noir, l'écharpe bleu ciel du club autour du cou. Élise se devait d'être là pour dire au revoir à Bernard Tapie.
J'ai côtoyé pas mal d'années parce que j'étais une fidèle de l'OM, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir le côtoyer, lui parler. Il était très sociable. On se parlait comme je vous parle.
Des fans de tous âges, des hommes, des femmes, certains ont connu la grande époque de l'OM. D'autres plus jeunes ont entendu des centaines d'histoires de la bouche de leurs parents, comme Jibril qui a manqué le lycée pour venir.
C'était en fait, vous voyez, comme un père pour Marseille un peu. J'ai même placé des larmes pour lui.
Le corbillard passe au milieu du public, beaucoup s'approche, photographie le véhicule à l'image de Stéphane.
J'avais envie de le toucher, je suis aussi croyant, donc je voulais l'accompagner aussi à la cathédrale de la Major.
Sur les derniers mètres avant la Major, la famille de Bernard Tapie suit le cercueil au milieu de la foule. Plusieurs personnalités sont présentes, Jean-Louis Borloo ou encore le maire de Marseille, Benoît Payan.
L'enfant pauvre de Paris a su comprendre et aimer cette ville. Il lui a donné de la fierté, fière et populaire. Déterminé, Bernard Tapie s'est confondu avec Marseille.
Les cloches de l'église et la sirène d'un paquebot se font entendre. Bernard Tapie sera inhumé ensuite dans l'intimité au cimetière Mazarque dans le sud de la ville.
Un cimetière qui est à quelques encablures du stade Vélodrome. Marseille dans l'actualité très régulièrement depuis la rentrée début septembre. Emmanuel Macron avait passé 3 jours dans la ville, marqué par de très violents règlements de compte cet été encore, pour détailler un plan d'1,5 milliard d'euros, sécurité, école, logement, transport, hôpitaux. Un conseiller du Premier ministre Jean Castex, le préfet Laurent Carrier, est chargé du suivi de ce grand plan. Le prix Nobel de la paix est attribué cette année à 2 journalistes, une femme, un homme, qui se battent pour la liberté d'expression dans leur pays. Maria Ressa, qui est à la fois philippine et américaine, et le russe Dmitri Muratov. Bonjour Olivier Poujade.
Bonjour Bruno.
Dmitri Muratov, d'abord avec vous Olivier, rédacteur en chef du journal Novaya Gazeta.
Oui, Dmitri Muratov, qui est aussi l'un des fondateurs de ce journal d'opposition russe, né de l'action dissidente d'anciens rédacteurs de la Pravda au milieu des années 90. Pendant plus de 20 ans, Dmitri Muratov a guidé ses journalistes enquêteurs pour dénoncer notamment la corruption gouvernementale et la violation des droits de l'homme en Russie. Sa rédaction a payé au prix fort ce travail d'investigation sous la direction de Muratov depuis 1993. 6 membres de Novaya Gazeta sont morts. Parmi eux, Anna Politkovskaya, assassinée de 4 balles dans la tête il y a 15 ans, presque jour pour jour. Dmitri Muratov, qui précise d'ailleurs ce matin qu'il ne s'agit pas de son mérite mérite personnel, hein, mais de celui de la rédaction de Novaya Gazeta, de ceux qui sont morts, dit-il, en défendant le droit des gens à la liberté d'expression.
Les commentaires du Kremlin après Nobel qui fera sans doute sourire jaune chez Novaya Gazeta. Moscou salue le courage et le talent de Dimitri Mouratov. Également lauréate, donc, Olivier, la journaliste philippine Maria Ressa.
Oui, un autre combat individuel récompensait celui de cette autrice américano-philippine et collaboratrice en Asie du Sud-Est de la chaîne CNN. Ses investigations ont dénoncé les pratiques du régime du président philippin Rodrigo Duterte, notamment un travail réalisé pour le site d'enquête Rappler qui lui a valu d'être arrêté et accusé de cyberdiffamation aux Philippines. Des poursuites guidées par des considérations politiques selon une grande partie de la communauté internationale. Le comité Nobel décide donc aujourd'hui à son tour de couronner l'action de Maria Ressa et plus largement de s'engager pour la défense de la liberté d'expression à travers le monde.
Cela alors que cela fait 6 mois aujourd'hui que le reporter français Olivier Dubois est otage des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans au Mali. À l'initiative de sa famille et de l'association Reporters sans frontières, dans 13 villes de France, la photo d'Olivier Dubois sera affichée sur la façade des hôtels de ville de Nantes à Pau, en passant par Montpellier et Fort-de-France, d'où est originaire Olivier Dubois. Ce qui est en question en Pologne, c'est l'indépendance de la justice. Les réformes engagées au fil des mois par le parti nationaliste au pouvoir ont valu à la Pologne plusieurs condamnations de la Cour de justice de l'Union européenne. La réplique polonaise, arrivée hier, suscite une inquiétude très vive en Europe qui ressemble au fond à celle que soulevait l'hypothèse du Brexit. La Cour constitutionnelle polonaise rejette la suprématie du droit européen sur le droit national et elle déclare plusieurs articles des traités européens incompatible avec la constitution polonaise. C'est une attaque contre l'Union européenne, dit le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune à Paris. La Pologne joue avec le feu, ajoute le ministre luxembourgeois des affaires étrangères, et risque la rupture avec l'Union. Bonjour Angélique Boin.
Bonjour.
En direct de Bruxelles, très vive poussée d'inquiétude dans les milieux européens. Comment mesurer, Angélique, la portée des décisions de la Cour constitutionnelle à Varsovie?
Eh bien, pour un certain nombre d'experts, la décision d'hier est un polexit juridique. La Pologne s'extrait du droit européen, pourtant fondement de notre Union. En clair, Varsovie dit aux juges polonais qu'ils ne peuvent plus se référer à la Cour européenne de justice. Alors, pour leur empêche, il est professeur de droit européen à Londres, eh bien, c'est sans précédent et d'une gravité extrême.
En fait, ils ignorent, ils ont décidé d'ignorer ce qui leur convient pas afin de mettre en place un système quasi-soviétique où le parti au pouvoir contrôle l'ensemble des juges et des procureurs. Ce qui amène en fait à se prémunir de toute poursuite judiciaire en cas par exemple de violation du droit de l'Union européenne ou en cas de vol effronté des financements européens. Il n'y aura plus personne en fait pour sanctionner les autorités polonaises.
Alors Angélique, après le Brexit, un polexit, sans doute pas, le gouvernement polonais assure qu'il veut rester dans l'Union.
Ah oui, pas question pour ce gouvernement au pouvoir de claquer la porte. On rappelle tout de même que la Pologne est le principal bénéficiaire des fonds européens de cohésion. Et c'est ce qui fait dire à Laurent Pech que la situation actuelle est en fait plus grave que le départ des Britanniques.
C'est pire que le Brexit dans ce cas, puisqu'en fait, vous avez un État membre qui, de fait, en fait, sort de l'ordre juridique européen, mais sans sortir du système européen, ce qui lui permet en fait de faire du chantage aux autres États membres, par exemple en ce qui concerne l'adoption des lois, tout en pouvant continuer à bénéficier aux fonds européens. Donc en fait, c'est plus pervers que le Brexit. Au moins, dans le Brexit, vous avez un État membre qui sort formellement.
Alors Angélique, ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ces mots. Nous allons faire respecter les principes fondateurs de l'Union européenne. Que peut faire la Commission ?
Elle est dans une situation difficile, car si elle tape trop fort, on vient de l'entendre, la Pologne peut bloquer des décisions européennes, mais elle a des leviers financiers. Elle en a d'ailleurs déjà activé sur une décision de justice récente, assortie à une amende journalière lourde. La Commission peut aussi bloquer le plan de relance européen, dont la Pologne a bien besoin, 23 milliards d'euros de subventions et 34 autres milliards de prêts bon marché.
Merci Angélique Bois. En direct de Bruxelles, le ministre allemand des Affaires étrangères appelle lui aussi la Pologne à respecter pleinement les règles communes de l'Union européenne. Et puis dans le pays, Donald Tusk, chef de l'opposition à Varsovie et ancien président du Conseil européen, appelle à un rassemblement dimanche pour défendre une Pologne européenne. Et cette affaire a des échos dans le débat français. Marine Le Pen a apporté ce matin son soutien à la Pologne et sans vouloir s'affranchir de manière aussi flagrante des règles européennes, à droite notamment, Élodie Forêt, l'hypothèse de s'affranchir tout de même du droit européen est posé.
Oui, dans la course à l'Élysée, la question de la primauté du droit national semble être un passage obligé à droite et à l'extrême droite. C'est notamment l'objet du référendum que Marine Le Pen veut proposer aux Français.
La suprématie de la Constitution française sur toutes les autres normes, même internationales, sera constitutionnalisée. remettant de facto en cause les accords ou les processus juridiques qui portent atteinte à ce principe.
Alors, quel est l'objectif de la candidate RN ? C'est lutter contre l'immigration. À droite, les prétendants sont à peu près sur le même créneau. Michel Barnier, par exemple, ex-commissaire européen, prône un moratoire sur l'immigration garanti par une loi constitutionnelle qui libérerait la France de ses engagements internationaux. La primauté du droit national revendiquée aussi à gauche par Arnaud Montebourg.
Nous avons besoin d'une Europe qui soit portée sur la protection en haut et qui nous fiche la paix en bas.
Donner au Parlement français la possibilité de corriger le droit européen, une promesse qui permet à ses candidats de flatter un électorat eurosceptique. Qu'importe finalement que cela soit aujourd'hui quasiment impossible à mettre en œuvre, tout se heurterait notamment au Conseil constitutionnel, où serait susceptible de déclencher une crise politique en s'affranchissant du Parlement pour réviser la Constitution.
Et dans la série des tensions européennes, tensions autour des quotas de pêche entre la France et la Grande-Bretagne et cette menace de Clément Beaune, le secrétaire d'État français aux affaires européennes, l'hypothèse de réduire les livraisons d'électricité à Jersey, les îles anglo-normandes dépendent de l'Union européenne pour leur électricité. Eux veulent afficher leur unité, les quatre principaux candidats de la primaire écologiste. En campagne à Lyon aujourd'hui, Sandrine Rousseau, Delphine Bateau, Éric Piolle, autour du vainqueur de la primaire, Yannick Jadot. Les mots de Sandrine Rousseau dans ce 13-14, la semaine dernière, affirmant que son soutien n'était pas acquis sans condition à Yannick Jadot, sont-ils oubliés? Élément de réponse avec ce reportage de Mathilde Imberti.
Franchement, ça a de la gueule, non? Ça, c'est une belle équipe. Ça, c'est une belle équipe de France, de l'écologie.
Les ex-challengers sont tous là. Sandrine Rousseau, qui y croyait et dit avoir bouclé hier soir les négociations, sa place dans la campagne est définie.
Je vais prendre la présidence du comité politique. À cet âge-là, je regarderai sur la stratégie, les lignes programmatiques et je pourrai influencer sur la manière dont la campagne sera menée. En tous les cas, l'équipe de France devra être mixte. Ouais, ça, c'est clair. Ce ne sera pas une ambiance de vestiaire, au contraire. Ce sera une ambiance de renouvellement des pratiques et sportives et politiques.
Éric Piolle, au destin plus incertain dans l'équipe, joue le jeu sans plus au micro.
C'est à peu près calé et je vais laisser Yannick faire les annonces. Je vais contribuer, on va contribuer évidemment.
Il faut un processus de désignation, il faut un candidat, donc on a choisi notre candidat et voilà, c'est comme ça, ça va.
La composition de l'équipe de campagne sera dévoilée sous peu, assure l'entourage de Yannick Jadot. Chez le candidat à l'Élysée, un mantra, son optimisme de conviction emportera l'enthousiasme des Français.
Nous, on est toujours du côté de la lumière. On n'est pas du côté obscur des débats nauséabonds. J'ai besoin d'Éric, j'ai besoin de Delphine, j'ai besoin de Sandrine et j'ai besoin d'absolument tout le monde. De toute façon, si on n'est pas rassemblés, si on n'est pas unis, ça ne marchera pas.
Une photo de groupe devant la Cité internationale avant cet après-midi, un déplacement sur la précarité énergétique. À Lyon, Christophe Vincent, Mathilde Imberti, France Inter.
Après Sciences Po, une autre prestigieuse école supérieure en France, face à des soupçons de harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol, c'est Centrale Supélec. Une étude interne menée en juin-juillet auprès des étudiants du campus de Paris-Saclay, à la demande d'une association de lutte contre le sexisme, donne des résultats très inquiétants. Environ 2400 élèves consultés, 650 réponses. 28 disent avoir été victimes d'un viol, 71 d'une agression sexuelle, 74 de harcèlement sexuel, 135 répondants parlent de propos sexistes, tout cela au cours de l'année 2020-2021. Le parquet d'Evry ouvre une enquête préliminaire. En ligne avec nous, Émilie Roger, bonjour madame.
Bonjour.
Référente égalité homme-femme à l'école centrale Supélec. Ce qui est stupéfiant, c'est de voir d'abord l'énormité de ces chiffres et de se dire que cela se passe maintenant, à l'heure de MeToo, avec toutes les mises en garde et tout ce qu'on peut entendre au fil des semaines et des mois. Comment vous l'expliquez-vous ?
Ce qu'on explique surtout, c'est que ce qui se passe au sein de notre école, c'est le miroir de ce qui se passe dans la société. Et en fait, ce qu'on a investigué au titre de cette enquête, donc c'est une enquête que l'administration de l'école a demandée et qu'elle a confiée à l'association féministe de Centrale Supélec, l'association SAPES. Donc c'est une enquête qu'on a coordonnée avec cette association et ce qu'elle montre surtout, c'est que ce qui se passe chez nous est aussi le reflet de ce qui se passe dans la société. Et c'est surtout...
Est-ce qu'on sait, Émilie Roger, où ces agressions ont eu lieu, dans quel contexte ?
Alors, ces agressions ont eu lieu dans à peu près 8%, dans 80% des cas, au niveau des résidences étudiantes et au niveau des domiciles des étudiants, pour la plupart hébergés sur le campus.
Est-ce qu'il y a des enseignants concernés ?
Non, pas du tout. Pas dans les cas qui nous ont été remontés. Après, nous avons des témoignages qui sont anonymes.
Et est-ce que l'enquête continue, c'est-à-dire est-ce que vous allez poursuivre ce travail de recension, de consultation des étudiants sur le campus ?
Absolument. Donc c'est une enquête qui est inédite, hein. C'est la première fois que nous la menons. C'est une enquête qui a porté sur l'année passée et qui est amenée à être dupliquée d'année en année pour justement pouvoir mesurer ces évolutions. Et aujourd'hui, il y a clairement un sentiment de révolte qui nous a tous saisis, un sentiment d'effroi qui nous a tous saisis, puisqu'on n'imaginait pas, avec tous les dispositifs que nous permettons et que nous proposons déjà depuis des années pour l'écoute et pour l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, on n'imaginait pas que la réalité était à ce point dramatique.
Est-ce que vous allez mettre de nouveaux dispositifs en place, de nouveaux garde-fous, et est-ce qu'il y a un système de cellules d'écoute qui se met en place aussi chez vous ?
Oui, absolument. Donc on avait déjà un dispositif d'écoute et un dispositif d'accompagnement des victimes, mais là on va aller plus loin. Donc jusqu'à présent, on avait un dispositif qui permettait l'écoute et l'accompagnement psychologique des victimes. Et il faut croire que ce n'est pas suffisant pour pouvoir vraiment libérer la parole. Donc là, on va aller plus loin. On permet un dispositif d'écoute qui soit externalisé, puisque la plupart des études montrent qu'il est plus facile pour des victimes de viol de s'exprimer auprès de tiers, donc auprès de représentants qui ne sont pas dans l'institution auquel on appartient. Et on va mettre aussi en place, on est en train de mettre en place, c'est une affaire de quelques jours, un accompagnement juridique pour permettre aux victimes de pouvoir mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, de pouvoir être accompagnées dans la qualification des faits et dans la défense, bien sûr. Parce que nous, ce que nous voulons, au-delà de ces constats et au-delà de ces chiffres, c'est pouvoir défendre les victimes, ce qui est que les victimes puissent donner suite sur un plan judiciaire comme sur un plan disciplinaire.
Et d'ailleurs, vous savez à ce stade de combien d'affaires s'est saisie le parquet d'Evry ?
Pas encore.
Merci Émilie Roger d'avoir pris quelques minutes avec nous, référente égalité homme-femme à cette école centrale Supélec. La vice-présidente de la métropole de Rouen, placée en garde à vue ce matin dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Mélanie Boulanger était la tête de liste socialiste et écologiste au dernier régional. Elle est également maire de Canteleu. L'affaire fait l'objet d'une information judiciaire en Seine-Saint-Denis. 11 personnes ont été interpellées en tout. Arrêt sur audience. Chaque vendredi, nous vous racontons dans ce journal de 13h les moments forts et les coulisses du procès des attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, c'est avec Sophie Parmentier. Bonjour Sophie.
Bonjour Bruno.
En direct du palais de justice de l'île de la Cité, avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. Alors Sophie, depuis la semaine dernière, c'est la parole aux victimes devant la cour d'assises. 350 témoignages seront entendus en tout. Et en début de semaine, c'était les récits des attaques contre les terrasses de café. Et vous avez assisté à un face-à-face entre accusés et victimes, des victimes elles-mêmes musulmanes.
Oui, c'est vrai que j'ai été marquée en ce début de semaine lors des témoignages des dernières attaques sur les terrasses de la Belle Équipe, notamment marquée par ces victimes qui sont, vous le savez, à quelques mètres du box des accusés. Ce box où Salah Abdeslam a revendiqué dès les premiers jours du procès les attaques en citant Allah, l'État islamique et ses frères musulmans. Eh bien, on a entendu cette semaine Khaled, par exemple, qui a perdu ses deux sœurs, Oda et Halima, sur la terrasse de la Belle Équipe. Khaled qui a dit à Abdeslam qu'il était musulman, lui aussi, que ce soir du 13 novembre, eh bien, c'est à Dieu qu'il a pensé en premier, mais pas le même Dieu que vous. On a vu aussi une maman, Nadia Mondeguer, la maman de Lamia. Elle a précisé en arrivant à la barre qu'elle était d'origine égyptienne et qu'elle n'en pouvait plus de ce cri à la Wakbar, ce cri mortifère associé à ces gestes assassins, parce que à la Wakbar, dit-elle, est d'abord un cri vivant. Elle a rappelé aussi que les anachides, vous savez, ces chants a cappella qui sont désormais prônés par les djihadistes, eh bien, à l'origine, ce sont des cantiques. Et puis, on peut citer peut-être encore Mohamed, le papa de Sonia. Sonia a été grièvement blessée sur la terrasse du comptoir Voltaire dans l'explosion du grand frère de Salah Abdeslam, Brahim Abdeslam. Eh bien, Mohamed a lancé à Abdeslam, je suis musulman et je ne suis pas... ces gens-là, les accusés, en fait, appellent les musulmans comme leurs frères. Je ne suis pas leur frère, car leur frère ne fera de mal à personne.
Et puis, la semaine, Sophie, a été marqué par les récits des victimes des attaques du Bataclan.
Évidemment, à partir de depuis mercredi, la cour s'est plongée dans le piège, dans l'horreur du Bataclan, avec ces trois terroristes qui ont surgi au milieu du concert et la foule que l'on a vue joyeuse sur une photo qui a été projetée sur grand écran. Il y a un témoin, en fait, un survivant qui a projeté cette photo. On a vu la foule serrée avant les premiers tirs. Alors, il y a beaucoup de témoignages de survivants qui ont raconté qu'ils avaient d'abord cru à des pétards, qu'ils avaient été surpris et puis qu'ils avez vu les armes de guerre et puis ces balles trouer les têtes, les thorax, les membres, le sang jaillir. Tous les survivants qu'on a vu défiler, eh bien, sont profondément traumatisés. Ils ont raconté la mare de sang dans la fosse, les hurlements de douleur, le silence de mort. On a vu aussi ceux qui ont réussi à s'échapper, par exemple, comme cette jeune fille qui a défoncé à coups de poing un faux plafond et le président l'a remerciée en lui disant qu'elle avait sauvé beaucoup de monde. Des témoignages très très forts, notamment hier les témoignages de gueules cassées à la barre, notamment Gaëlle qui a eu la joue trouée par une balle de Kalachnikov et qui a perdu son compagnon à ses côtés au bord de la fosse.
Et ces témoignages vont continuer pendant 3 semaines encore, hein, c'est ça ?
Alors, 3 semaines au moins, jusqu'à fin octobre, mais il faut dire qu'il y a 70 survivants et proches de victimes qui veulent témoigner, et le président n'a pas encore trouvé de place dans le planning, donc en réalité, on ne sait pas combien de temps ça va durer.
Alors, dans Arrêt sur audience avec Charlotte Piret, Sophie, vous nous racontez aussi des coulisses, des détails peut-être moins importants de ce procès, mais qui sont tout de même marquants. Par exemple, le fait, me dites-vous, que des enfants assistent aux audiences.
Alors c'est vrai que moi j'ai été très marquée par cette image cette semaine parce que vous savez que dans une cour d'assises, eh bien c'est rare d'avoir des enfants dans le public et cette semaine on en a vu plusieurs. On rappelle bien sûr qu'il y a plusieurs orphelins qui ont perdu un parent sur une terrasse ou au Bataclan ce soir du 13 novembre. J'ai vu devant moi là sur les bancs cette semaine des enfants âgés d'une dizaine d'années. Il y avait même un bébé dans une poussette alors que sa maman témoignait à la barre, une survivante, sa maman qui d'ailleurs se disait éprouvée alors qu'elle entendait son bébé pleurer au fond de la salle.
Sophie Parmentier en direct du Palais de Justice de Paris avec Lucien Lefebvre. L'audience du jour a commencé, Sophie ?
L'audience du jour a commencé avec le témoignage d'une femme venue de Los Angeles pour parler de son frère mort dans la fosse. Son frère qui était un ami d'enfance d'un policier de la BRI qui a donné l'assaut ce soir-là.
On suivra ça dans les journaux de 18 et 19 heures. C'est un classique du cambriolage, les vols chez les footballeurs pendant qu'ils sont en plein match. Parmi les dernières victimes, André Di Maria, le joueur du PSG, c'était en mars dernier dans son domicile de Neuilly. Emmanuel Leclerc, 4 personnes viennent d'être mises en examen.
Oui, cette histoire avait marqué les esprits car 2 joueurs de l'équipe du PSG avaient été cambriolé effectivement ce soir-là, 2 matchs face à Nantes en mars dernier, Angel Di Maria donc, qui avait même été sorti en cours de rencontre à cause de ça, le capitaine Marquinhos dont le père a été victime d'un homejacking en présence des filles du capitaine du Paris Saint-Germain. 2 hommes et 2 femmes ont effectivement été mis en examen hier soir à Nantes, soupçonnés d'avoir réussi à s'emparer du contenu d'un coffre-fort, 500 000 euros de montres et de bijoux chez Angel Di Maria.
Alors la police est très active et efficace dans ces affaires de cambriolage chez des footballeurs.
Et bien parce que des affaires qui sont confiées à chaque fois aux brigades de répression du banditisme. Pour Angel Di Maria, c'est celle de la police judiciaire parisienne, des semaines d'analyse de vidéosurveillance, de recoupements impressionnants pour cibler des braqueurs très professionnels qui utilisent des VTC pour se déplacer, de la téléphonie cryptée évidemment, et cela a permis d'ailleurs de les mettre en cause pour le cambriolage au domicile de Julian Draxler, cambriolé 2 semaines plus tôt. Pareil pour les braqueurs présumés au domicile du père de Marquinhos. Sous les verrous également, les enquêteurs de Versailles avaient réussi à remonter jusqu'à Paris le trajet des cambrioleurs. Enfin, l'un des plus beaux coups restera le cambrioleur des stars, alias le chat, qui passait par les gouttières pour commettre des vols en série en 2018. Il s'était introduit chez Thiago Silva et Choupo-Moting. 18 mois d'enquête et de traque de la BRB de Paris avant le coup de sifflet final.
Emmanuel Leclerc. Le professeur Émile Darraille n'est plus chef de service à l'hôpital Tenon à Paris. Il perd également ses responsabilités pédagogiques. Émile Darraille est accusé de brutalité lors d'examens gynécologiques. Une enquête est également ouverte pour viol sur mineur. Il conteste ses accusations. La France peut-elle renouveler ses relations avec l'Afrique, ce continent dont elle a colonisé beaucoup de pays, mais où son influence est déclinante aujourd'hui? 47 ans après les premiers sommets France-Afrique, celui qui se tient aujourd'hui à Montpellier se veut d'un format nouveau. Pas de chef d'État invité, mais beaucoup d'acteurs de la société civile, des jeunes en particulier, avec lesquels Emmanuel Macron va dialoguer. Un sommet France-Afrique d'un nouveau format, qu'en dit-on dans un pays où l'influence de la France reste importante, le Sénégal? France Inter à Dakar, Omar Ouaman.
Les Sénégalais saluent le nouveau format de ce sommet, l'absence des chefs d'État au profit de la société civile, mais ils auraient souhaité qu'il se déroule en Afrique. Fatou Sossar est sociologue.
Macron convoque la société civile africaine pour venir discuter. Pourquoi il ne vient pas discuter avec les Africains chez eux? En fait, ce n'est pas la société civile africaine qu'il a convoquée, c'est une société civile à sa solde.
Le ton est donné. On assiste ici au Sénégal, mais également ailleurs en Afrique francophone, à une montée du sentiment anti-français, notamment en raison du soutien présumé de Paris à certaines dictatures.
faudrait pas qu'on en arrive à penser que la France est l'ennemi de l'Afrique.
Et c'est pour ne pas en arriver là que ce sommet de Montpellier a lieu, pour tourner la page de ce qui est qualifié de paternalisme français. Aliou Sané, du mouvement pacifique sénégalais, y en a marre.
Ce paternalisme doit cesser. Dans la tête des nouvelles générations, il a cessé. Parce que nous, on n'a plus ce complexe. Mais c'est nos chefs d'État, malheureusement, qui encore a ce complexe vis-à-vis de la France et qui subit ce paternalisme-là. Je vous donne un exemple. Jamais le débat sur le franc CFA n'a été aussi populaire.
Et à Montpellier, il sera beaucoup question de ce franc CFA que la nouvelle génération veut voir disparaître car héritage de l'époque coloniale et symbole de la France-Afrique.
Une explosion ce matin en Afghanistan, explosion dans une mosquée à Kunduz. Le bilan que donne Médecins sans frontières à l'agence France-Presse est le suivant, 15 morts et 90 blessés.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Cette fois, les Belges pensaient avoir gagné 3 ans après la demi-finale du Mondial 2018. Ils menaient 2-0 à la mi-temps hier soir face à la France en demi-finale de la Ligue des Nations de football. Mais non, au coup de sifflet final, les Bleus, grâce à Benzema, Mbappé et Théo Hernandez, avaient renversé la vapeur. Nous n'avons pas résisté au plaisir un peu sadique de demander sa réaction à notre Belge fan de foot préféré, Alex Vizorek.
En 2018, je pensais avoir touché le fond. Et cette fois-ci, il y a eu en plus ce scénario exceptionnel du match. Donc cette fois-ci, je ne peux même plus dire que la France ne mérite pas.
Faut tenir côté français. Pogba qui est balancé par terre sous les yeux de Monsieur Siebert. C'est terminé ! C'est terminé ! La France est en finale !
C'est vous qui avez décrété qu'on avait le seum. On est de l'autre côté du problème. C'est-à-dire que nous, on est dans la souffrance et dans les Français sont arrogants, ils vont encore se la péter. Mais c'est vrai qu'il y a une moitié de Belges qui regardent quand même les médias français et donc se rendent compte de l'utilisation du seum. Mais l'autre moitié est dans le déni absolu.
Un jour, on dira peut-être, et à la fin, c'est la Belgique qui gagne. Vous rêvez de ce jour-là?
J'aimerais bien encore être vivant le jour où ça va arriver. Ça peut être très long, je crois.
Les diables rouges, aucune étoile, assez de mage.
Voilà, question taquine, mise en musique, illustration sonore. Cécilia Arbona, la France en finale dimanche de cette Ligue des Nations face à l'Espagne. La Belgique jouera pour la 3e place face à l'Italie. C'est un compositeur méconnu du grand public, mais que l'on a plusieurs occasions de découvrir cet automne. Le Roumain Georges Enescu est à l'affiche de l'Opéra de Paris avec son opéra Œdipe. Et puis Stéphane Capron, il est aussi au cœur d'un album que lui consacre le violoniste David Grimal avec son ensemble Les Dissonances, album qui célèbre l'amitié franco-roumaine.
Pour accompagner le Caprice roumain pour violon et orchestre de Enescu, David Grimal a choisi des œuvres de Chausson et Ravel, car Enescu était aussi un grand violoniste et qu'il adorait jouer ses œuvres. Aujourd'hui, David Grimal participe au travail de réhabilitation du compositeur roumain.
Il n'a pas été oublié par tout le monde, hein. Il a peut-être été oublié sur les grandes scènes françaises, mais il est quand même joué. J'étais en Finlande la semaine dernière pour jouer d'ailleurs le Caprice roumain avec un orchestre, et j'ai eu un jeune violoniste de l'orchestre qui m'aborde et qui me dit « j'aime tellement Enescu, je veux faire un concert avec ses sonates, etc. » Et donc c'est un musicien qui est très aimé par les musiciens et peut-être que maintenant il va trouver son chemin vers le grand public puisque les musiciens du coup vont le défendre.
David Grimal est un artiste engagé. Il a créé il y a 15 ans l'autre saison. Ce sont des concerts offerts aux sans-abri en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris. L'intégralité de la recette est reversée à l'association Les Margéniaux.
Donc ça veut dire que les gens qui sont en marge ont du génie. Hein. Quelle est la différence entre Schubert ou Modigliani et finalement quelqu'un qui vit dans la rue, parfois est mince, et donc pour aider des gens à s'en sortir, des gens qui veulent.
Cette association, les Margéniaux, finance grâce aux recettes des concerts, des projets de réinsertion en lien avec les acteurs sociaux.
Des concerts de David Grimal ce soir en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, 1er arrondissement de Paris, un concert en effet pour les sans-abri. Dans un instant, la météo, puis l'invité du 13-14, Marie Dariussec.
France 2, le quiz des champions, demain soir. Ce sont les 10 plus grands gagnants de jeux télévisés. Et pour la première fois, ils vont s'affronter. Qui deviendra le champion des champions?
Un match de titans, c'est carrément la Ligue des champions.
Le quiz des champions, présenté par Cyril Ferraud, inédit demain soir à 21h05 sur France 2.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
L'après-midi et le week-end sera ensoleillé et doux.
Oui, effectivement, les conditions anticycloniques se renforcent aujourd'hui. L'ensoleillement sera donc généreux cet après-midi dans la plupart des régions. Néanmoins, il faudra être patient entre l'Auvergne et le Jura, où la couverture nuageuse de ce matin va se dissiper très lentement. En Corse, prévoyez un peu plus de nébulosité sur la partie orientale de l'île, apportant de courtes ondées. Mistral et Tramontane soufflent modérément. À noter un bon vent de nord sur la plaine d'Alsace. Et puis les températures sont effectivement de saison, voire douces pour la saison, avec des maximales comprises entre 16 et 24 degrés, on attend 16 à Clermont-Ferrand, 17 à Lille et Besançon. Prévoyez 19 dans les rues de Paris comme à Dijon et Tarbes, 21 à La Rochelle, 23 à Calvi. On ira jusqu'à 24, voire 25 degrés à Fréjus. Et puis, comme vous l'avez dit, ce week-end sera parfaitement bien ensoleillé, après naturellement dissipation des grisailles matinales.
Jean-Pierre Hameau, Météo France. Tout de suite l'invité du 13h, Marie Dariussec.
France Inter, le 13-14.
Et pour vous la présenter plus en détail, Marie Dariussec, il faut la décrire à l'heure du coucher, comme elle le fait, page 70 de Pas dormir. Je suis insupportable, je mets des bouchons d'oreilles, j'éteins tout ce qui luit, je ferme les volets, je tire soigneusement les rideaux, ma porte est couverte d'une tenture. À l'hôtel, j'ai un masque pour les yeux, je laisse refroidir à mon chevet quantité de tisane dont je bois 2-3 gorgées, je parfume mon oreiller à l'essence de tilleul, je noue autour de mon cou un foulard chaud l'hiver, vaporeux l'été, surtout pas de motif à mes draps blancs, j'ai le même pyjama en double pour en changer sans perturbation, je fais quelques étirements de pilates, toujours les mêmes, avec le même petit ballon gonflable que je transporte aussi en voyage, je médite ou j'essaie, si je pouvais... Je prierai. Bonjour Marie Dariussec.
Bonjour Bruno Zuc.
Vous avez bien dormi cette nuit?
Pas terrible.
Pas terrible?
Non.
Donc ça continue?
Ça continue. J'espérais qu'après avoir mis le point final à ce livre, je dormirais, mais ce n'est pas magique, hélas.
Même pas, ça fait même pas office de thérapie. Alors, Pas dormir, donc c'est entre autobiographie, essai, hommage à beaucoup d'auteurs de chevet, ça paraît chez POL, et cela dissèque avec l'aide de très nombreux cinéastes, écrivains, bien souvent insomniaques eux-mêmes, ce que vous connaissez depuis une vingtaine d'années. Message aux auditeurs, appelez-nous au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter, joignez-nous pour raconter vos insomnies si vous le souhaitez. Et vous vous posez cette question, Marie Dariussec, qu'est-ce qui ne dort pas quand je ne dors pas? Alors passe le fantôme d'un frère que vous n'avez pas connu, mais cela a commencé en 2001 à la naissance de votre premier enfant.
Oui, on dit dormir comme un bébé, mais c'est la phrase la plus fausse du monde. Les bébés ne dorment pas. Et il est normal de perdre le sommeil quand on devient parent, pour la première fois, deuxième fois, troisième fois dans mon cas. Mais normalement, on le retrouve, le sommeil. Et moi, le sommeil est parti comme un chat par la porte à mesure que les bébés entraient et le sommeil n'est jamais revenu. Et je suis devenue, comme on dit, hyper vigilante. C'est le diagnostic qui m'a été posé. Ça ne me fait pas mieux dormir, mais au moins je sais ce que j'ai.
Insomniaque, ça veut dire quoi en ce qui vous concerne? Vous dormez très peu, vous n'arrivez pas à vous endormir, vous vous réveillez au milieu de la nuit?
Alors, je suis une grosse dormeuse contrariée. Moi, je suis bien avec 8 heures de sommeil, que je n'ai jamais depuis 20 ans. Donc, j'ai du mal à m'endormir. Et une fois endormie, je me réveille beaucoup trop tôt. Alors, j'ai appris à m'endormir avec des tas de trucs que je dissèque dans le livre. Mais je continue à me réveiller à 4h44 ou 3h33.
Les heures schnapps.
Oui, les Allemands appellent ça les heures schnapps, les heures où on voit double ou triple. 5h55, je me dis, bon, allez, 5h55, je me lève. Mais je suis épuisée parce que j'ai très mal dormi quand même.
C'est un refus d'abandon d'être insomniaque.
Il me semble qu'il y a autant d'insomnie que d'insomniaques, mais on peut en voir des grands ensembles. Et dans mon cas, effectivement, je ne dors pas parce que j'ai l'impression qu'une catastrophe va arriver si je dors. J'ai l'impression d'être le pilote d'un avion qui va se crasher si je m'endors. C'est très très mauvais. D'un certain côté, c'est complètement mégalomane. Enfin, si je dors, le monde continue de tourner. Mais je n'arrive pas à m'en convaincre. Et je crois qu'il y a au moins une petite loupiote, une petite veilleuse qui veille les gens que j'aime. Si je m'endors, qu'est-ce qui va leur arriver?
Vous prenez soin d'eux, on va dire ça comme ça. Vous mettez des mots sur cet état, cet entre-deux qui est celui de l'insomnie, cette espèce d'espace-temps particulier. Et vous dites que c'est un état de science-fiction. Ça ressemble à ça vraiment? C'est comme être dans un roman ou un film de science-fiction, vivre une insomnie?
J'ai beaucoup convoqué dans cet essai des romans de science-fiction, ouais. Effectivement, que je lis parfois la nuit. Les insomniaques se reconnaîtront, je pense. À 4h du matin, on est dans un état de veille qui n'est pas vraiment de la veille diurne. C'est une forme de vertige, de looping. De somnambulisme éveillé où on ne pense pas droit et en même temps on s'égare dans des zones très proches du rêve qui peuvent être cauchemardesques et puis qui parfois dans des moments de grâce peuvent apporter. Il m'est arrivé d'écrire de temps en temps la nuit, mais c'est quand même très rare. En général, j'aimerais mieux dormir.
Vous écrivez pas forcément la nuit, peu la nuit.
J'ai écrit deux de mes romans la nuit, dont Il faut beaucoup aimer les hommes. Je l'ai écrit en respectant les consignes d'hygiène de sommeil que me conseillait ma psychiatre, parce que j'en suis là. Elle me disait, écoutez, si vous vous réveillez à 4 heures, commencez votre journée à 4 heures. Après tout, c'est vrai, je suis pas conductrice d'engin, je travaille pas à la mine, je ne suis pas prof non plus, ma mère était prof, et il faut une sacrée énergie pour faire cours à des gamins quand on n'a pas dormi. Donc moi, je peux m'autoriser à mal dormir, à rattraper par une petite sieste. Donc j'ai écrit certains de mes livres à 4h du matin, sans gage de qualité ou quoi que ce soit. Ou de...
Et ça vous arrive de vous relire derrière en disant ce que j'ai écrit à 4h du matin est complètement délirant. Je sais que là, il y a un passage dans Pas dormir, vous dites, faut pas trop le lire, il est vraiment délirant. Moi, je l'ai trouvé très bien, c'est le chapitre qui s'appelle Looping.
Oui, c'est un chapitre que j'invite les lecteurs ou lectrices à sauter, parce qu'il est... Il a la forme des insomnies, c'est-à-dire il
le ruban de Moebius.
Oui, ouais. Il y a un ruban de Moebius, il y a un ressassement, il y a des allers-retours, il y a des loopings que reconnaîtront les insomniaques. Ça peut donner des bonnes pages, ça peut en donner des mauvaises, ça dépend. Le problème quand on commence sa journée à 4h du matin, c'est que vers 11h, enfin moi j'avais un énorme coup de barre, donc je faisais des siestes qui ressemblaient à des deuxièmes nuits. Mmh. Je mettais mon réveil pour ne pas rater la sortie de l'école de mes gamins. J'ai passé mes journées en pyjama, je ne mangeais plus, je ne faisais que petit déjeuner sans arrêt. Enfin, je conseille ça à personne.
J'ai une pensée pour tous mes camarades qui présentent les journaux le matin sur France Inter. Cathy, au standard de France Inter. Bonjour Cathy.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, voilà, je viens témoigner parce que je souffre d'insomnie depuis bien une quinzaine d'années maintenant. Alors, j'ai l'impression que cette insomnie a démarré à partir du moment où j'ai dû m'occuper de ma mère qui était en grande dépendance. Je me disais que une fois que ma maman serait partie, bah écoutez, ça serait différent. Mais non, je continue à me réveiller à 2-3 heures du matin d'une façon vraiment constante. Et ce qui me fait un drôle d'effet, c'est que maintenant mes nuits, quelque part, mes insomnies en tout cas, ont pris une importance importante dans ma vie. C'est-à-dire que je vis la nuit, enfin je fais plein de choses quand je me réveille et ça me plaît en fait. Et donc c'est un peu dangereux.
Vous n'êtes pas prêt de vous rendormir.
Parce que je sais que je ne dors pas assez, mais quelque part je profite de mes moments de veille pour faire plein de choses.
Et vous avez l'impression de vivre plus que les autres ?
Ah ben complètement. Et j'ai entendu une fois aussi Christiane Taubira qui expliquait qu'elle ne dormait pas ou très peu, et qu'elle vivait la nuit en fait. Et je me suis dit, je ne suis pas toute seule à vivre la nuit.
Merci pour ce témoignage Marie Dariussec. Vous avez l'impression de vivre plus que les autres, toutes ces heures gagnées si j'ose dire, ou au contraire vous vous dites tellement de fatigue, j'ai moins bien vécu?
Moi, je pense que la dame qui nous parlait, Cathy, ou Christiane Taubira, sont peut-être des petites dormeuses finalement, et ça arrive à vivre avec peu de sommeil. Moi, je fatigue très vite quand je ne dors pas assez. Et puis, j'aime dormir. J'aime cet état où on s'absente. J'aime que le dialogue de moi à moi s'arrête aussi. Cette espèce de ronron permanent dans la tête. Je me dis en écoutant la dame que les insomnies, nos insomnies, sont peut-être comme un cahier ou un écritoire où s'accumulent nos expériences. Et ce n'est pas parce que sa mère est partie qu'elle n'est pas restée dans ce rythme et dans une sorte de fidélité aussi aux absents, à nos morts, et qui continue à nous hanter dans nos insomnies. Pour moi, la zone de l'insomnie, elle n'est pas toute heureuse, hein, elle n'est pas très productrice, vous voyez, j'arrive plus à en parler, je perds mes mots à force de pas dormir.
C'est forcément dans un lit l'insomnie.
Alors, ça c'est une grande question. La dame qui m'a accompagnée dans mon manque de sommeil, cette psychiatre somnologue, comme elle s'appelle elle-même,
somnologue,
oui, qui a fondé le réseau Morphée, qui est un très joli nom de réseau pour insomniaque.
Ça c'est le docteur Royan Parola,
oui,
laissez-moi
exactement,
deviner.
Voilà, absolument.
On l'a déjà vu dans le 13h.
Elle me disait, le lit doit être réservé au sommeil. Et moi j'avais l'habitude d'écrire beaucoup au lit, de lire au lit, de jouer avec mes enfants.
Oui,
au lit,
vous êtes clinophile, c'est un mot que j'ai appris en lisant ce livre.
Et moi c'est un mot que j'ai appris chez Georges Perec, qui était un grand clinophile. Le clinophile reste au lit, il aime ça. Non, il faut se lever. Il faut se mettre à la verticale, comme un animal humain sur la terre, avec ses pieds sur le sol terrestre, et vivre, voilà. Et on dormira mieux. Ça marche un peu, ça, de quitter son lit quand on ne dort pas.
Nicole, j'ai des troubles du sommeil depuis l'âge de 4 ans. Je prends des médicaments depuis l'adolescence. J'ai tout essayé. Je regrette qu'on ne trouve pas une substance qui puisse procurer un sommeil réparateur. C'est une vie difficile à cause de ça. Vous avez tout essayé aussi, Marie Dariussec.
Oui, comme elle, j'ai tout essayé. Il y a un chapitre de livre qui s'appelle « J'ai tout essayé ». Les barbituriques, bien entendu, c'est extrêmement addictif et dangereux. L'alcool, parce que ça assomme, mais ça vous réveille à 4h du matin. Et puis, j'ai essayé l'hypnose, l'acupuncture, des choses plus sérieuses, donc l'ostéopathie crânienne, et puis des tas de gadgets.
Ah oui, les blanquettes, là, qu'est-ce que c'est? J'avais noté ça, c'est des draps très lourds, oui, c'est ça?
C'est une couette extrêmement lourde, la Gravity Blanket.
Gravity Blanket.
Qui a un beau nom de science-fiction, là, ouais, aussi. C'est très, très lourd, ça vous entoure, ça vous écrase. Il y a un petit côté utérin, j'imagine, comme ça, on est coincé. Alors moi, ça marchait pas du tout parce qu'elle était tellement lourde qu'elle tombait en faisant boum et elle me réveillait. Ou alors elle me coinçait les pieds dans une position douloureuse et ça me réveillait. Enfin, la plupart des gadgets que j'ai essayés me réveillaient, en fait.
Et vous brisez un petit tabou, on peut former un couple uni et aimant et dormir chacun de son côté.
Oui,
chacun sa chambre, je veux dire.
Nous sommes deux insomniaques et c'était, ouais, la chambre à part ou le divorce, ça, ouais, c'est sûr. Et on a réussi à part divorcer en acceptant de briser ce tabou, effectivement, d'avoir d'abord deux lits, puis carrément deux chambres. Ça nous coûte cher en mètre carré. On entasse nos enfants dans un coin.
Non, sans et rire, les livres, ça, j'imagine qu'il y en a pas mal aussi.
Oui, on a chacun nos manies. Et ma foi, on s'en sort assez bien comme ça. Mais il faut accepter, c'est un peu étrange, c'est vrai.
Laurie au standard. Bonjour Laurie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, comme votre interlocutrice précédente, mes insomnies ont commencé il y a environ 15-20 ans, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, c'est plutôt à partir du moment où ils ont, l'État, les communes ont commencé à mettre de lumière, des espèces de gros lampadaires orange ou de LED maintenant. Voilà, qui ont perturbé, je pense que c'est la cause de mon manque de sommeil. Voilà, mais j'en ai pris mon parti. Alors moi, par contre, contrairement à Madame Darieusec, je n'ai essayé aucun et je refuse toutes sortes de somnifères ou d'excipients. Et donc, j'en profite pour regarder le firmament quand je peux, parce que je n'habite pas en pleine ville. Malheureusement, pour les citadins, c'est pas possible.
Oui, c'est plus compliqué,
donc,
oui.
Voilà, j'ai habité quand même 35 ans dans la Caraïbe, à côté de la mer, donc juste à côté d'une plage, où on passait notre temps, parce que ça a commencé là. Et à partir du moment où ils ont commencé à mettre des lampadaires le long des plages, le long des villages, etc., on ramassait avec les pêcheurs toutes les nuits, en période de ponte de tortues, des milliers de tortues qui s'égaraient à cause, qui étaient insomniaques aussi, ou qui, au lieu de partir dans la mer, partaient vers la lumière des lampadaires.
Oui. Voilà, les tortues insomniaques. Ça nous amène, merci beaucoup Laurie pour ce témoignage, ça nous amène à un aspect de votre livre, Marie Darieusec, notre chambre devenue un espace connecté, le capitalisme qui mange aussi notre sommeil.
Oui, la fameuse chambre de Pascal, ouais, tout le malheur du monde vient qu'on ne sait pas rester en repos dans sa chambre. Elle n'existe plus de toute façon, cette chambre. Et puis le confinement nous l'a prouvé, on a horreur de rester dans sa chambre. C'est très culpabilisant, ce petit refrain de Pascal. Et nos chambres sont devenues poreuses au monde. Et j'ai beau me mettre sur avion, comme on dit, mon téléphone coupé pour dormir, la tentation à 4 heures de se reconnecter est très grande. Et il y a un très bon livre de Jonathan Crary qui s'appelle « Le capitalisme à l'assaut du sommeil » qui montre qu'effectivement le capitalisme a réussi à tout nous vendre, l'eau, la nourriture, le toit, même l'amitié sur Facebook, mais pas encore le sommeil. Alors l'industrie de la chimie, oui, de pharmaceutique nous a vendu les barbituriques, mais Jonathan Crary montre combien effectivement on est sommé d'être productif sans arrêt, connecté sans arrêt, réactif sans arrêt, y compris la nuit, depuis l'invention d'Internet, formidable par ailleurs. Et tout est fait pour réduire notre sommeil à peau de chagrin, en fait. J'ai l'impression qu'une fois que, malheureusement, on aura assisté à la destruction ou à l'égarement de tous les animaux sauvages, y compris par la lumière, comme disait cette dame, ouais, on assistera à l'extinction de Sapiens Sapiens, mais peut-être par insomnie, quoi. Peut-être qu'on mourra d'épuisement avec toute cette connexion frénétique.
Merci Marie Darieusec d'être passée, merci, dans le studio de France Inter. Pas dormir, c'est publié chez POL et on découvrira à quel point il y a un lien entre littérature et insomnie. Si vous n'écrivez pas tant que ça, en temps d'insomnie, vous lisez beaucoup. Et puis le nombre d'écrivains insomniaques, oui, c'est assez impressionnant. 13h43.
France Inter, le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Portrait d'une mystique que des hommes d'église ont admirée et d'autres rejetée au XVIIe siècle.
Parce qu'il y a un rapport entre la nuit et les mystiques. Madame Guyon.
C'est noté, à tout à l'heure. Avant cela, dernier épisode de notre feuilleton 5 Français dans la campagne. Aujourd'hui, Simon, qui est chômeur et vote, mais blanc. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Le Festival du Polar se tient ce week-end à Saint-Laurent-du-Var. Une trentaine d'auteurs y participent, dont celle qu'on appelle l'étoile noire du Polar, Sonia Delzongle. Elle est à votre micro aujourd'hui, le temps d'une chanson.
Et elle m'a tout d'abord parlé du Dernier Chant. Son septième thriller publié chez De Noël, une enquête scientifique pour déjouer un complot mondial, avec en jeu rien moins que la survie de l'humanité.
Ça commence par un mal mystérieux qui touche les espèces animales sauvages, un peu aux quatre coins du monde. Les animaux sont dans un état de prostration qui précède la mort. Et là-dessus, le personnage principal, donc Shan, qui est biologiste à l'Institut de virologie de Grenoble, va recevoir un dossier nommé Animals, justement, dans lequel elle va faire des découvertes assez stupéfiantes qui vont l'inciter vraiment à aller sur le terrain. Le terrain sera Tadoussac, et à Tadoussac, ce sera une rencontre avec les cétacés du fleuve Saint-Laurent.
C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. À plusieurs on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était.
C'est un titre de Grand Corps Malade qu'a choisi de nous faire écouter Sonia Delzongle.
Nos absents, un extrait de son troisième album. C'est une chanson sur le deuil, sur le vide, l'impression de vide, laissée par la disparition de nos proches.
J'ai un grand absent dans ma vie, hormis bon, ma grand-mère, à laquelle j'étais très très attachée, que j'ai accompagnée dans la mort en lui tenant la main au moment de son dernier souffle. J'avais 14 ans. Mon père est parti en janvier 2012. Mon père à qui je dois vraiment ma passion de l'écriture et des lettres. Donc cet absent est toujours là, chaque jour. J'écris chaque jour et peut-être me souffle-t-il des choses aussi.
On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur.
Il dit on en a de plus en plus, des absents.
Bien sûr. Moi, en quelque sorte, il y a des périodes de ma vie où les absents se sont concentrés. J'ai perdu des amis, du sida, une bande avec laquelle je traînais, une bande d'amis, et là, la mort est intervenue et a pratiquement décimé cette bande. Maintenant, je me dis, il y a des périodes de répit, en fait, dans la vie.
Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles, mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastelles. Ce temps qui, pour une fois, est un véritable allié, chaque heure passée est une pommade, il en faudra des milliers.
Lorsque vous entendez cette chanson de Grand Corps Malade, est-ce que surgissent d'emblée les visages de vos absents ?
Ah là là. Bien sûr, enfin, ils sont là tout le temps, en fait. Les visages sont là tout le temps. Et au-delà de ces visages-là, pour moi, là, quand j'entends le texte de Grand Corps Malade, c'est universel. Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tous ceux, justement, qui ont peur de la mort ou qui ont perdu des proches. En fait, c'est une chanson sur les absents défunts, mais ça s'adresse aux vivants plus que jamais.
C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, qu'inspire des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie.
Nos absents, Grand Corps Malade. C'était donc, Frédéric, le choix de la romancière Sonia Delzongle.
Qui vient de publier chez De Noël le Dernier Chant, thriller écologique, mais aussi sur l'île Noire, aux éditions Paul Sen, et qui sera ce week-end au Festival du Polar de Saint-Laurent-du-Var.
Bon week-end!
Pareillement.
Le feuilleton, dernier portrait cette semaine de nos 5 Français dans la campagne. Nous les retrouverons tous les 5 dans quelques semaines grâce au service politique de France Inter. On les suivra jusqu'en avril. Aujourd'hui, Simon, il a 28 ans, il vit à Colmar, il est chômeur et bénévole chez ATD Quart Monde. Il vote à chaque présidentielle, mais blanc. C'est Simon le Baron qui l'a rencontré.
Donc là, on est devant la gare de Colmar. Vous habitez juste à côté ?
J'habite derrière le pont, là, juste en face.
Profitons-en sur le chemin pour faire les présentations.
En fait, j'ai habité à côté de Melun. Donc, j'avais eu l'opportunité de faire menuisier, donc j'ai commencé un apprentissage dans le Jura chez les compagnons. Je suis revenu en région parisienne, j'ai travaillé un petit peu, puis ma boîte a coulé. Et puis, je voulais un nouveau départ et je suis arrivé en Alsace pour faire les vendanges au départ. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'éducateur. Et aujourd'hui, je suis chômeur. Du coup, maintenant, je suis dans une association.
ATD Quart Monde.
C'est ça.
Merci. Café ?
Ouais. C'est comme la cigarette, il faudra que j'arrête. Plus d'un litre par jour, c'est pas possible, vraiment. Ça fait quelques années que je vais voter parce que je pense que c'est nécessaire, mais où j'ai plus aucune conviction dans ce qui est dit. Même juste pendant les débats, le fait que les gens ne soient pas capables de s'écouter, pour moi c'est une preuve de bêtise. Même si tu as des convictions, tu te dois d'écouter et tu peux être d'accord, même si c'est pas ton parti, même si tu as le droit d'être d'accord. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de constructif ou une envie d'honnêteté ou de changer vraiment les choses. Ça me donne pas envie d'aller voter, ça me donne pas envie de croire en quelqu'un. J'ai même pas envie de les écouter débattre, ça me tue. Il y en a aucun qui est capable de se mettre d'accord, il y en a aucun qui est capable de faire des concessions. Ils sont juste capables de se tirer dans les pattes. Je pense qu'il faut un changement en profondeur.
Et vous attendez quoi du coup de cette présidentielle ?
Ouf. J'en suis à me dire que finalement, même si l'extrême droite passe, ça serait pas plus mal. Parce qu'en fait, quitte à qu'on touche le fond, autant que ça soit vraiment.
Vous seriez prêt à voter pour eux ?
Non, j'irai pas jusqu'à voter pour eux. Je continuerai à voter blanc parce que je n'y crois plus. Mais si jamais ça doit arriver parce que j'ai voté blanc, je l'accepterai parce qu'en fait, j'ai fait mon choix. J'ai décidé qu'il y avait personne qui me parlait assez ou personne qui me touchait au point de voter pour lui. Donc si l'extrême droite devait passer, advienne que pourra. Hein. On peut être surpris. Et peut-être qu'ils essaieront de faire quelque chose. Après, je suis plus dépité, je vois pas vraiment de solution à tout ça. Mais avec les gens que je côtoie ou les gens avec qui j'ai discuté, on a tous un peu cette idée où, de toute façon, ça changera rien, que t'ailles voter ou pas, ça changera rien. C'est des gens qui sont beaucoup trop loin de nous et dans une autre dimension, qui vivent autre chose. Donc je vois pas comment leurs préoccupations peuvent être les nôtres. Et je vois pas comment ils peuvent penser à nous dans la position dans laquelle ils sont. Ouais. J'irai voter, c'est sûr. Et voter blanc, certainement. Je pense que le système est usé. Et je pense qu'il faudrait changer.
Donc quelque chose de plus participatif, quoi. Mais ça, c'était aussi une des revendications du mouvement des Gilets jaunes, par exemple.
Quand j'ai suivi un petit peu les Gilets jaunes, j'ai l'impression qu'il y avait énormément de demandes. Il y avait certaines qui me parlaient. Et j'aurais peut-être allé plus manifester, mais même ça, finalement, c'est extrêmement défaitiste. Et c'est horrible de se dire ça, mais... Même manifester, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Qu'on nous demande de voter ou qu'on aille manifester, c'est pareil. S'ils n'ont pas décidé de nous écouter, ils ne nous écouteront pas.
Et la première série de rencontres avec nos 5 Français dans la campagne, vous les retrouvez chacune sur franceinter.fr, sur les plateformes de podcast, une semaine dans leur vie. On les retrouvera donc au fil de cette campagne. Le feuilleton est réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, un dernier vif cette semaine avant que vous ne filiez au rendez-vous de l'histoire de Blois. On a beaucoup répété depuis mardi que l'Église avait le tort de vivre sous domination masculine. Aux prêtres, faut-il vraiment dire mon père ? Aux évêques, faut-il dire mon seigneur ? Eh bien, au XVIIe siècle, on disait de Bossuet, évêque de Meaux, qu'il était monsieur de Meaux. On appelait Fénelon, archevêque de Cambrai, monsieur de Cambrai. Et Fénelon a été le fils spirituel d'une mystique à l'influence considérable à l'époque, Madame Guyon. C'était elle qu'il dirigeait, inversion des genres. Faut dire tout de suite que Madame Guyon a fini en résidence surveillée en 1717 à Blois, une ville qui était donc déjà au rendez-vous de l'histoire.
Alors si on revient au début de sa vie, Jeanne de la Motte Guyon était dès le premier jour une survivante, née prématurée, à moitié morte, éduquée ensuite à la va comme je te pousse, et livrée de force à 16 ans à un époux brutal. Elle vit le mariage comme un esclavage. Sa première expérience de dépossession, voire d'abjection de soi, déjà la mystique. La mort de son Barbon,
Barbon, ça va.
Plus vieux qu'elle, elle avait 28 ans quand il est mort, lui laisse la liberté et une fortune. Elle ne voudra pas de remariage ou seulement avec l'enfant Jésus. Ben oui, parce que il y a une école de spiritualité française qui insiste alors sur l'image de l'enfant né de la crèche et dépendant de Marie. Madame Guyon disait, quand Jésus petit avait un cauchemar, eh bien il se jetait comme tous les bébés dans les bras de sa mère. Il y a en Dieu tous les états, y compris la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Saint Paul, dans les petits cercles que Madame Guyon commençait à animer de sa présence, elle insistait sur la disponibilité qu'il faut pour entendre la parole, la simplicité de la chambre. La parole entre par la porte ou la fenêtre. Ainsi s'exprime-t-elle dans un maître livre paru en 1684, moyen court pour faire oraison.
L'année suivante, elle rencontre une grande personnalité du catholicisme, Fénelon, qui sera appelé à devenir le précepteur des héritiers de Louis XIV et archevêque de Cambrai.
Et on le surnommera, ce monsieur de Cambrai, le cygne de Cambrai. Madame Guyon, elle ne nomme pas Fénelon monseigneur, ni mon père. Elle dit mon enfant. Et elle lui recommande de se dessaisir, lâcher prise, vous voyez. L'abandon, c'est plus fécond que les actes qu'on peut accomplir. Et Fénelon répond qu'en effet, il n'est jamais aussi joyeux que lorsqu'il se retrouve dans sa chambre, priant comme joue un enfant. Mais l'aigle de Meaux, oui, monsieur de Meaux, l'évêque de Meaux, Bossuet, le dictateur de la doctrine, veille. Fénelon, jusque-là, avait été son protégé, et il ne voit pas d'un bon œil Madame Guyon le supplanter, non plus qu'il n'accepte l'influence grandissante qu'elle exerce sur Madame de Maintenon, épouse du roi Morganatique.
Morganatique, de conditions inférieures et mises de côté.
Et donc c'est un peu secret comme
clandestine,
mariage.
Voilà.
Et Bossuet tente de faire condamner les positions de Madame Guyon, ou supposait-elle, par Rome.
Bref, l'aigle de Meaux est plus fort que le cygne de Cambrai.
Oui, vous savez qu'il y a à Versailles un salon de la guerre et un salon de la paix, dont Fénelon, dans son enseignement de précepteur royal, faisait le choix. Mais Louis XIV, lui, habitait davantage celui de la guerre, en compagnie de Bossuet. On dirait aujourd'hui que le conflit opposait un principe paternel acquis au pouvoir absolu et un univers féminin incarné par Madame Guyon et que Fénelon avait rallié. Pendant que Monsieur de Cambrai, disgracié et renvoyé à son siège épiscopal, Notre-Dame est emprisonnée à Vincennes, Vaugirard, puis à la Bastille, tour à tour dans la fournaise et l'obscurité glacée. Ses interrogateurs veulent d'abord l'accuser de mœurs dissolues, mais sa doctrine de l'abandon ne l'empêche pas de résister, farouchement. Et il s'avère aussi impossible de la présenter en chef de secte. Au bout de 8 ans, 1702, le souverain finit par entrouvrir la cage. Il est à noter que Madame Guyon n'avait cessé d'y chanter, posant ses paroles sur celles des airs d'opéra.
Et elle a rendez-vous, comme vous, avec Blois.
À 55 ans, en résidence surveillée, elle. Elle a renoncé à toute publication, mais elle continue à correspondre avec ses amis, notamment ceux de Cambrai. Et son salon reçoit des disciples qui voyagent entre Blois, Paris, l'Écosse, la Hollande. Louis XIV n'est plus quand elle meurt en 1717. Mais la répression systématique par l'absolutisme des minorités religieuses n'a pas seulement provoqué l'exode des Huguenots, le supplice des jansénistes, mais aussi ce qu'on a appelé le crépuscule des mystiques, et ça a été une grande perte pour la France. La ville de Blois, qui accueille les rendez-vous de l'histoire, vous l'avez dit, je crois, et qui, comme la plupart des municipalités, cherche à féminiser ses noms de rue, s'honorerait d'en attribuer une à Madame Guyon.
Blois, vous y êtes demain, 18h, pour Intelligence Service en direct ?
Depuis la médiathèque de l'abbé Grégoire, le sujet, ce sera Marx et le travail.
C'est bien noté. Merci Jean Lebrun.